Prions. Seigneur, on te remet ce temps. Tu veux nous parler. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre nos oreilles. Puisses-tu avoir toute liberté de nous interpeller, Seigneur, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église. Te remercions parce que, comme on l'a rappelé, tu as tout donné à la croix. Tu es prêt à nous encourager tout au long du chemin, Seigneur. Tu veux simplement qu'on se tourne vers toi, qu'on t'obéisse. Aide-nous, Seigneur, si nous sommes détournés de toi, à revenir à toi. Tous autant que nous sommes, Seigneur. Aide-nous à ne pas jouer à l'Église, à ne pas nous contenter d'une relation superficielle qui se base plus sur les relations entre hommes que sur la relation avec toi, Seigneur. Seigneur, sois à l'œuvre ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour les faits historiques qu'elle relate. Le fait que nous pouvons placer notre confiance entièrement en elle, Seigneur. Elle est de nature complètement différente des promesses qui nous sont faites par les hommes, par nos proches, par nos amis, par nos employeurs, par les hommes politiques. Seigneur, aide-nous à comprendre la différence et à vraiment la mettre en pratique, cette parole, dans nos vies. Prions pour que ton esprit soit à l'œuvre, qu'il puisse prendre ces paroles qu'il a inspirées, ces auteurs de la Bible, Seigneur, et notamment à Luc, et que ces vérités, Seigneur, elles fassent leur œuvre dans nos vies. Tu nous promets que c'est pour ça que tu as envoyé ta parole, Seigneur, et nous voulons la recevoir et nous sommes prêts à en assumer les conséquences dans nos vies, Seigneur, même si ça peut être difficile, même si ça peut être dur à reconnaître, Seigneur, aide-nous à avoir un cœur souple, pas une nuque raide devant toi, Seigneur. Prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous tourner avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 3. Je vous signale aussi que si vous faites partie d'un groupe de maison, on discute des choses que l'on voit le dimanche matin, donc utilisez un crayon, un marqueur, soulignez des choses, prenez des notes, pas parce que ce que je dis est tellement important, mais c'est ce que la parole dit qui est important. Et puis, vous pouvez toujours réécouter grâce à Craig qui procède à l'enregistrement de tous les messages. Ils sont normalement disponibles en ligne dès le lundi, même des fois le dimanche soir. Et je comprends qu'on oublie ce qu'on a dit. Moi-même, j'écoute le vendredi, c'est le soir de... On a la réunion de maison le vendredi soir. Dans la journée du vendredi, je m'écoute moi-même. Tellement c'est bien, non? C'est bon pour me rappeler justement de quoi j'ai parlé. Et la conversation, elle va être riche. Et vous allez retirer quelque chose seulement si vous avez réfléchi, seulement si vous avez pensé à cette prédication, à ce passage plus exactement. C'est pas la prédication. Aujourd'hui, on va voir la prédication de Jean-Baptiste. Lisons ensemble. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux, deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient, « Que ferons-nous donc ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des péagers pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que ferons-nous ? » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que ferons-nous ? » Il leur dit, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son van à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Arrêtons-nous ici, aujourd'hui. Prédication de Jean-Baptiste. On a rappelé que Luc est un historien. Un médecin qui a rapporté des faits avec la plus grande des précisions. Je vous rappelle la préface de son évangile où il dit que puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui dès le commencement en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ce docteur, ce médecin, très précis, a fait une œuvre d'historien remarquable en faisant des entretiens, en faisant des recherches. En regardant sur le net de l'époque, il n'y avait pas de net à l'époque, d'internet. Il fallait voir des documents, interviewer les gens, aller dans des librairies peut-être. Et il nous montre qu'il est précis en situant les faits qu'il rapporte, avec pas moins de 7 personnages. Troisième année du nouveau mandat de Barack Obama, alors que François Hollande était président de la France, François Ayrault le premier ministre, que le pape était le pape François Ier. Vous voyez que Il donne des détails très précis. Il part du général pour se focaliser sur ce qui le concerne le plus près. Il part des grands hommes politiques jusqu'aux responsables religieux qui influencent la vie spirituelle de son temps, de son lieu. La 15e année du règne de César, Tibère César. C'est lui qui avait succédé à Auguste, César Auguste, Octavius. Et toutes ces dates permettent de faire des recoupements historiques. C'est assez intéressant. Il y a toute une littérature très détaillée. Sur ce verset, vous pouvez trouver des commentaires de 20 pages qui essayent de recouper les choses avec des gens, surtout à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les hommes se sont crus très, très malins. Ils ont établi ce qu'ils appelaient la haute critique, en Allemagne notamment. Ça est venu polluer les institutions d'enseignement chrétien aux États-Unis. Et ça a mené à une mise en doute de la parole de Dieu. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de faire des recoupements avec d'autres sources, toujours dans l'idée de montrer, de prouver que la Bible était fausse. Et quand vous lisez ces passages, comme dirait Tonio, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, faire ces recherches, vous voyez qu'ils ont essayé de toute leur force de montrer qu'il y avait des anomalies qui prouvait que la Bible était fausse. Que notamment ce Lysanias, tétrarque de l'Abilène, il y avait bien eu un Lysanias, un roi, mais il avait vécu 70 ans plus tôt. Mais toujours et toujours, l'histoire prouve que la Bible est juste. Et quelques années plus tard, il redécouvrait la trace d'un autre Lysanias, qui était bien un tétrarque de l'Abilène. Les tétrarques, c'était ceux qui régnait sur un quart du pays. Les Romains avaient divisé leurs provinces sur lesquelles ils régnaient, leurs colonies, ils étaient très malins. Ils divisaient, ils nommaient des chefs qui se disputaient entre eux pour avoir une lutte d'influence. Et tous ces personnages, en fait, on peut les découvrir. On a notamment la famille du roi Hérode. Il y avait Hérode le Grand, et puis après il y a eu Hérode Antipas, Hérode Agrippa, Agrippa 1, Agrippa 2, tous ces noms, on n'a pas le temps, mais pour bien suivre les évangiles et le livre des actes, il faut avoir un petit schéma qui vous montre qui est le fils de qui, avec qui, etc. Mais tout ça, soyez rassurés, ça a été prouvé juste. Ne laissez pas les gens croire que Jésus n'est pas un personnage historique. Il est plus historique que Barack Obama. On est tous d'accord que Barack Obama, il est historique. Jésus n'a en rien à envier à Barack Obama, à François Hollande. Son nom est inscrit, gravé, imprimé dans l'histoire. Et tout ce que nous raconte Luc, on peut le croire. Tous ces faits historiques, ces faits géographiques, ces contrées de qu'il nomme, ils ont existé. Ils sont justes. Et quand il nous parle de choses spirituelles, on peut lui faire entièrement confiance aussi. C'est pas une jolie légende, c'est pas une belle allégorie. Il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de foi qui disait « Ma foi, non, c'est ôtez-vous de la tête tout doute quant à la véracité biblique. » Et c'est pour ça que la Bible est digne d'être étudiée verset par verset. Pas seulement les jolies images qui nous font du bien. Ah, le psaume 23, oui, c'est mon préféré. Et c'est tout ce que je connais, je ne cherche pas à en connaître davantage. Non, étudiez la Bible. Vous avez plein d'occasions, d'opportunités. Étudiez, fortifiez votre foi. Ne laissez pas votre foi être proie de vos sentiments. Quand ça va bien, je crois à la Bible. Quand ça va mal, je lis plus ma Bible. Quand ça va bien, je viens à l'église. Quand ça va pas, je vais plus à l'église parce que je veux surtout pas admettre que j'ai des problèmes dans ma foi. Et puis, après avoir parlé des hommes politiques, il parle des souverains sacrificateurs. C'est un peu bizarre parce que normalement, il y en avait, si les souverains, ça veut dire superanus, ça veut dire qui domine au-dessus, il n'y en a qu'un. Mais là aussi, il y avait une famille corrompue et Anne, ou Annas, je préfère Annas parce que Anne, on pense que c'est celle qui était au temple et qui avait vu Jésus. Annas, c'était l'ancien prêtre, grand prêtre, souverain sacrificateur, ça veut dire grand prêtre. Encore une fois, on doit ce terme bizarre à Louis II, qui voulait surtout pas qu'on confonde les sacrificateurs et les prêtres catholiques. Anne, c'était l'ancien, et Caïphe, c'était son beau-fils, son gendre. Et comme c'était une famille corrompue, Annas avait réussi à faire que son gendre soit le nouveau souverain sacrificateur, le nouveau grand prêtre dans le temple à Jérusalem, mais ça lui permettait aussi de manipuler toutes les choses. C'était des gens qui étaient, je pense que c'était des sadducéens qui croyaient pas au miraculeux, qui croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. On se demande à quoi ils croyaient. Aujourd'hui, vous avez des institutions religieuses, on se demande à quoi ils croient. La Bible a été reléguée au second, troisième, quatrième, cinquième plan, et les écrits des contemporains prennent une importance incroyable. Centrez-vous sur la parole de Dieu. Et c'est là que Jean, qui va devenir Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui va baptiser dans le désert, et il est interpellé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans ce contexte historique et religieux, interpelle ce fils de Zacharie et d'Élisabeth dont nous avons déjà parlé au chapitre 80 du premier chapitre de Luc. Il était dit, le petit enfant, parlant de Jean, grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il avait pris l'habitude d'aller dans le désert. Et il alla, verset 3, dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et verset 7, il nous est dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Si nous, on avait prévu cette intervention de Jean, on l'aurait amené à un endroit où il y a plein de monde. Pourquoi ? Parce qu'on suit notre logique humaine. Quand on va faire de l'évangélisation, en général, on choisit un endroit où il y a du monde. On va plutôt sur la place Masséna que dans un coin perdu de la vallée de l'Estéron, après Roquestéron, là où dans des coins, on n'est pas sûr que la route va être encore ouverte quand on revient. Pourquoi ? Parce que on se base sur notre logique humaine. On veut maximiser les opportunités de contact. C'est pas mauvais en soi, mais est-ce que c'est nécessairement la volonté de Dieu ? Là, Dieu avait envoyé Zacharie dans le désert, et dans un endroit vraiment improbable, les gens faisaient des kilomètres à pied, en âne, en TGV, pour venir écouter cet homme bizarre. Aujourd'hui, les grands de ce monde ont des attachés de presse. Ils ont des porte-paroles. Najat Nado Valo Belkacem pour président Hollande. Je ne connais plus celui de Barack Obama, pour ne parler que d'eux. Et c'est des gens qui ont suivi des cours de com, de communication. Ils sont bien habillés, toujours comme il faut. Ils savent parler aux médias. Ils savent dire les choses qui vont faire monter les cotes des présidents dans les sondages. Et là, c'est l'homme le plus improbable qui est choisi par Dieu. Il avait été choisi dès sa naissance pour être le précurseur, pour être celui qui allait être en quelque sorte l'attaché de presse de Jésus-Christ. Celui qui allait venir l'annoncer. Et des passages nous expliquent qu'en fait il était très bizarre. Il ressemblait plus à un SDF qu'à un ministre en charge de la com. Il était vêtu de vêtements en poils de chameau. Il mangeait des sauterelles qu'il trempait dans du miel, un peu comme les McNuggets. Et puis il essayait pas de plaire aux gens. Il essayait pas de les caresser dans le sens du poil. Au contraire, il les insultait. Verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre bon, donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pas exactement le mec politiquement correct. Il fait du rentre-dedans et pourtant les gens viennent l'écouter en foule. Les gens ont besoin d'être repris. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'entendre des choses dures. On a l'habitude de vivre dans un monde où on veut tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On ne dit jamais la vérité, les quatre vérités aux gens face à face dans les yeux. Et Dieu veut nous interpeller ce matin, nous dire, repentez-vous. Repentez-vous, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Est-ce qu'on produit des fruits dignes de la repentance? Qu'est-ce qu'il y a dans notre sillage? Est-ce qu'il y a du malheur? Est-ce qu'il y a de l'impureté? Est-ce qu'il y a de la violence? De l'orgueil? Souvent, le message de l'Église, il est dilué. Et résultat des courses, l'Église n'a plus aucune influence dans notre monde. On est réduit à une grande OGN. On fait du bien. L'Église est connue pour donner des sandwichs aux pauvres dans la rue. C'est pas mauvais en soi et je veux surtout pas vous faire cesser de cette activité si vous la faites, mais l'Église, elle est là pour annoncer aux gens la vérité. Et la vérité, ça passe par dire aux gens leurs quatre vérités. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque l'on parle authentique, lorsque l'on dit la vérité aux gens, ça fait du bien aux gens. Parce que tous autant que nous sommes, nous savons que nous avons du péché dans notre vie. Nous avons de l'orgueil, nous avons de l'impureté, nous avons de la violence, nous avons des choses Et on essaye de tout lisser, de tout faire que tout soit beau, et on prend le sourire du dimanche matin où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout va bien, pas de problème. Et en même temps, dans nos cœurs, il y a du tumulte, il y a de la haine, il y a des disputes, il y a de l'orgueil, il y a de la luxure, il y a toutes ces choses. Et Jean-Baptiste, il venait bille en tête et il disait la vérité aux gens, et les gens répondaient, les gens demandaient même, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est merveilleux lorsque les gens demandent aux responsables spirituels, qu'est-ce que je dois faire? Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il cite le prophète Ésaïe, qui était une prophétie le concernant, la voix de celui du criant dans le désert, de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Toute chair verra le salut de Dieu. Cette époque et aujourd'hui encore, lorsqu'un haut dignitaire, un gouverneur, un homme politique, un roi, quelqu'un d'important arrivait dans un endroit, on refaisait la route. Aujourd'hui, on refait les routes avant les élections municipales, où on dit qu'on va les refaire. Mais l'idée, c'était que le chemin soit le plus facile possible pour la personne qu'on allait ainsi honorer. Il était ce personnage à qui cette mission avait été confiée par Dieu. Et il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. La repentance, c'est un cadeau de Dieu. La repentance, c'est quelque chose qui nous permet de corriger les choses. Je crois que James avait fait un message il y a quelque temps qu'il avait appelé « Contrôle Z ». Sur votre ordinateur, il y a une clé ou une combinaison de touches que vous pouvez utiliser pour effacer les bêtises que vous avez faites. La repentance, en quelque sorte, c'est un contrôle Z qui nous permet de remettre les choses en ordre avec Dieu. Paul dans Romains disait « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois qui juge, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » C'est Romains 2. « Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi et selon la vérité, comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » La repentance, c'est pas un mot vieilli qu'il faut jeter aux orties. La repentance, c'est un cadeau. Le fait qu'on peut revenir à Dieu. La repentance, ça vient d'un mot grec qui veut dire une pensée supérieure, métanoïa. C'est de réaliser que l'on s'éloigne de Dieu. C'est de comprendre ce que l'on fait. On est tous très intelligents, on pense tous qu'on a raison, sinon on ferait autrement et autre chose. Dieu veut que l'on comprenne que ce qu'on fait ne mène qu'à la mort spirituelle, la mort éternelle, de nous laisser tromper par Satan qui nous dit « mais non, Dieu vous interdit de faire cela parce qu'il veut votre mal, Il ne veut pas que vous soyez heureux. Comprendre, avoir une meilleure compréhension, avoir un éclair de lucidité. Et c'est pas seulement de comprendre, c'est une compréhension, une nouvelle pensée qui aboutit sur de l'action. Se repentir, c'est comprendre et faire demi-tour. C'est comprendre qu'on est, on veut aller à Cannes, on était à Nice, on est monté sur l'autoroute et on voit prochaine sortie Menton. Soit on va à Menton, c'est bien Menton. Il y a un joli festival du citron et des oranges. Il y a des gens très bien qui habitent Menton. Mais si on veut aller à Cannes, il faut qu'on sorte et qu'on fasse un demi-tour, qu'on revienne, qu'on reconnaisse d'abord qu'on s'est trompé. Toujours difficile pour les hommes au volant. Non, je connais une meilleure façon, on va prendre le raccourci après Menton pour revenir à Cannes. Non, non. Il faut reconnaître humblement qu'on a fait fausse route et se retourner. Ce qui est intéressant souvent, c'est que on pense que la repentance, c'est dire oh, c'est le regret, c'est le chagrin d'avoir mal fait. En fait, dans le texte original, il n'y a aucun sentiment qui s'attache à la repentance. La repentance, ça fait partie de l'intellect, comprendre qu'on fait fausse route, qu'on est ridicule, qu'on est bête, qu'on est stupide, qu'on s'est fait duper, et c'est agir. Trop souvent, nous, la repentance, c'est les larmes. Oh, j'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment désolé. Oh! Non, pas du tout. Si les sentiments suivent votre prise de conscience et votre détour, tant mieux, très bien. Mais on peut continuer à aimer son péché et s'en détourner. Dieu nous donne cette force. Le péché, si on y succombe, c'est parce qu'il a des attraits. Et ces attraits, ils vont pas disparaître parce que Dieu dit que c'est mal. Le goût des éclairs au chocolat, il va toujours être là dans mes papilles. Même après, si je prends des tonnes, c'est pas une question de sentiment. Et c'est dangereux parce que souvent on s'arrête au sentiment. Parce qu'on a un sentiment, on pense qu'on a fait quelque chose. On va voir un film, on pleure, on a l'impression d'aimer tous les gens. Mais il y a un mendiant qui est à côté, on va pas lui dire bonjour, on va pas lui parler. Parce qu'on a déjà, fait l'expérience interne de ces sentiments, de ces choses. Et on se dit, ah oui, j'ai eu du chagrin pour tout le monde. Non, c'était du chagrin pour George Clooney qui avait un accident dans ce film. Le baptême de repentance, il parle plus loin de quelqu'un qui va... Les gens étaient interpellés par cet homme qui parlait la vérité, qui les reprenait. Et certains se demandaient intérieurement, verset 15, si c'était pas lui le Christ, le Messie attendu. Et lui, tout de suite, dans la vérité, dans l'humilité, il dit, c'est pas moi. D'ailleurs, moi, je vous baptise avec l'eau. Mais il y en a un qui vient, qui est plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de délier la courroie de ses sandales. C'était une expression de s'humilier quand on allait s'occuper des pieds de quelqu'un d'autre. C'était les esclaves du rang les plus bas qui allaient nettoyer les pieds. C'est pour ça que Jésus s'est humilié en lavant les pieds de ses disciples. Et c'était quelque chose d'humiliant. Et Jean-Baptiste disait, même moi, je suis pas digne de faire cette chose humiliante. Ce sera encore un honneur pour moi que de toucher les pieds du Maître. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Lorsque vous vous baptisez, c'est pas dans l'eau, c'est pas ce qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est votre foi en Jésus-Christ, qui est venu prendre vos péchés sur la croix et qui est ressuscité. Le sacrifice a été accepté. Ce n'est pas un rituel qui va vous sauver. Ce n'est pas non plus une façon de se laver, comme on utilise un bon détergent et là, ça va nous laver. Ce n'est pas non plus une récompense, quelque chose que l'on fait parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on marche droit. C'est présenté quelquefois comme ça dans certaines églises. Pour pouvoir se faire baptiser, ouh! Faut passer les examens, il faut faire la formation de 3 ans, et après c'est laissé à l'appréciation du jury. Non, là, les gens venaient et c'était un geste d'humilité. J'ai besoin de pardon, j'ai besoin de revenir à Dieu. Je m'aperçois que je me suis éloigné de Dieu. Je comprends que c'est fou et je décide de changer de direction et je prends des actions pour faire cela. Le baptême, ça doit être le symbole d'une réalité intérieure. Certains viennent se faire baptiser en pensant que c'est à partir de ce moment-là les choses vont changer. C'est une consécration, c'est une façon de parler publiquement au monde pour dire, voilà, ce Christ dont on entend parler dans la Bible, j'y crois. Et je suis prêt à m'engager pour lui. J'exprime publiquement. Et les gens se faisaient baptiser en grand nombre, dans un endroit improbable, parce que c'était quelque chose qui était inspiré par le Saint-Esprit. C'était la façon de Dieu d'agir. Encore une fois, nous, on aurait fait d'autres plans, ça aurait mieux marché. Nous, on aurait été devant la plage de la Passe Masséna, et là, on aurait eu les France Inter, FR3, Nice Matin, Maurice prendre des photos. On aurait couvert l'événement. Pardon pour Maurice. Il leur dit, vous êtes une race de vipères. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le plus gentil des compliments. Quelque part, on a tous plus ou moins une aversion pour les serpents. Et là, c'est l'image des vipères qui fuient un feu de broussailles. On sait que Paul va se faire mordre par une vipère qui a été prise dans le feu. Et il y a cette colère à venir et il s'enfuit devant lui. Et il leur dit, montrez des actes, des actions. Ne vous basez pas sur le fait que quand vous étiez petit, vous avez été baptisé par votre marrain et votre marraine sur les fonts baptismaux de l'église catholique de tel ou tel endroit. Ne vous basez pas sur le fait qu'il y a 20 ans, le Seigneur vous a parlé, vous a touché, vous a ému, vous êtes venu en pleurant et il vous a été sauvé. Produisez des fruits dignes de la repentance. S'il n'y a pas de fruits dans votre vie en accord avec la repentance, c'est-à-dire qui plaisent à Dieu, qui sont conformes à la volonté de Dieu, vous avez toutes les raisons d'être inquiet. Même si à un moment vous étiez très sincère, peu importe, est-ce que votre vie laisse des fruits dignes de la repentance? Ne vous mettez pas à dire en vous-même, moi je viens d'une famille très croyante. Mon père allait à l'église, mon grand-père était prédicateur même. Oh, formidable! Et toi, qu'est-ce que tu penses de Christ? C'est une décision personnelle. Il leur dit, il les humilie parce qu'ils avaient cette fierté raciale. Nous sommes des descendants d'Abraham. Il a dit, et alors? Vous voyez ces pierres-là? Il était en plein désert, il y avait plein de caillasses. Si vous avez été en Israël, il y a Ils cultivent les pierres là-bas. Il y a des pierres partout. Il dit, Dieu, il peut prendre ces pierres et en faire des fils d'Abraham. Big deal. Waouh. Et il leur dit même, la cognée est mise à la racine des arbres. La hache est prête à couper les arbres qui ne donnent pas de fruits. Il parle du futur, de la d'eschatologie en quelque sorte. Vous pouvez penser que vous êtes en sûreté, mais un jour viendra où vous allez devoir payer des régler des comptes avec Dieu. C'est plutôt Dieu qui va régler votre compte. Le bon fruit est coupé et jeté au feu. Les foules sont interpellées parce qu'on leur parle la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est bien ce qui se passe au fond d'eux-mêmes. Qu'ils sont que des hypocrites, des vipères, qui essayent de donner une apparence de piété. Il leur dit, il leur fait un grand discours théologique. Non, pas du tout. Il leur dit, c'est très simple. Faites du bien autour de vous. C'est quand même quelque chose de terrible que, même en tant que chrétien, on puisse discuter de grandes choses théologiques, mais qu'on ne soit pas fichu de faire du bien autour de nous. Qu'on ne soit pas fichu d'aimer notre prochain. Qu'on ne soit pas fichu de pardonner notre prochain. Qu'on ne soit pas fichu de demander pardon à Dieu pour les choses que l'on fait. C'est très simple. Il va parler de différents groupes et il leur dit, un groupe, si vous avez de quoi partager, partagez avec l'autre. Si vous avez deux tuniques et qu'il y en a un qui n'a rien à manger, qui n'a pas de vêtements, donnez-lui. La même chose pour celui qui a mangé. On a toutes sortes d'excuses dans la tête. Il y a les services sociaux. Si je donne de l'argent à ce mendiant, il va aller boire du vin. C'est bien possible. Ben, achetez-lui un sandwich, donnez-lui un sandwich. Il y avait des péagers, c'est pas des paysagistes, hein, les péagers. C'était des collecteurs d'impôts qui étaient vraiment méprisés par le peuple parce qu'ils travaillaient avec les forces d'occupation romaines. Ils venaient chercher des taxes pour donner au gouvernement. Et comme on leur avait donné l'autorité de le faire, ils pouvaient arrondir leur fin de mois en augmentant ce qu'ils demandaient aux gens. Et c'est ce que Jean-Baptiste leur dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, mais ne trichez pas, ne prenez pas d'argent en plus de ce que vous êtes. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Il y a des soldats, on ne sait pas si c'était des soldats juifs ou peut-être aussi des soldats romains. Il leur dit, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour produire des œuvres dignes de la repentance? Il leur dit, ne faites pas de violence à personne, ne dénoncez personne à tort. Les militaires, les soldats avaient une grande influence. Ils avaient l'épée, ils pouvaient faire du mal, ils pouvaient couper la tête. Ils pouvaient annoncer faussement que telle ou telle personne était coupable. Ils pouvaient essayer de prendre, de voler de l'argent, contentez-vous de votre salaire, du sel qu'on vous donne. C'est ça que veut dire solde. C'est simple. On complique souvent les choses, parce que plus on complique et plus c'est facile de trouver des échappatoires. Oui, mais je trouve que les dons spirituels, le don du parler en... Là, on peut parler des heures, on peut faire des livres et des débats sans fin, mais on n'est pas fichu d'être des personnes pleines d'amour et qui se comporte de façon éthique. Le prophète Michée, un de ces petits prophètes dans les pages entre l'Ancien Testament et le Nouveau, ou à la fin de l'Ancien Testament, il avait cette parole prophétique formidable. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu fasses des études supérieures d'hébreu, de grec, de théologie. Non, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. Que tu sois juste dans tes rapports avec les hommes, que tu aimes la loyauté, que tu sois vrai, que tu ne triches pas. Ça, c'est pour la relation avec les hommes. Et puis, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pas besoin de faire des simagrées. « Oh, le Seigneur m'a dit !» Non, marche humblement avec ton Dieu. Écoute-le, passe du temps avec lui. Fais ce qu'il te demande de faire. Et puis à la fin, il est dit qu'en fait, Hérode, le roi, parce que Jean était quelqu'un qui disait la vérité, il n'avait pas peur des conséquences. Il avait fait des reproches à Hérode, le tétrarque, qui avait pris la femme de son frère comme épouse. Du coup, comme Hérode entendait Jean-Baptiste qui lui reprochait ça, il avait cru régler le problème en le mettant en prison. On sait que plus tard, c'est la fille d'Hérodias, cette femme d'Hérodiade, qui va, on pense qu'elle s'appelait Salomé, la tradition l'appelle Salomé, qui va demander au roi Hérode la tête de Jean-Baptiste sur la suggestion de sa maman. Jean-Baptiste avait du courage. Pourquoi ? Parce qu'il préparait le chemin du Seigneur. Si on veut avoir de l'influence, si on veut préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs des gens qui nous entourent, il faut qu'on se repente. Il faut qu'on change. Il faut qu'on demande pardon à Dieu et qu'on prenne une autre direction. Sachez que quand je vous dis ça, je me le dis à moi-même. On va terminer. Je vais vous demander de vous repentir. On va le faire en regardant ce passage du prophète Ésaïe qui se termine par verset 6 « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Si on veut que les hommes connaissent Dieu, il faut que l'on se repente. Il faut qu'on prépare son chemin. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Je vais vous demander, on va d'abord parler et après on priera ensemble. Il y a Il faut combler les vallées. Est-ce que vous êtes souvent dans une vallée? Une vallée causée par la dépression, par la pitié de soi-même. Je pense à moi et qu'est-ce que je suis malheureux? Qu'est-ce que je suis malheureuse? Rien ne me réussit. J'ai des tas de problèmes, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de mari, j'ai un mari, j'ai de l'argent. On est toujours à se plaindre. Et il y a des dépressions physiques qui peuvent être causées par des choses médicales, et c'est pas de ça dont il s'agit, c'est la dépression qui est causée par le manque de foi en Dieu. Je ne fais pas confiance à Dieu pour pourvoir à mes besoins. Je ne fais pas confiance à Dieu pour régler mes problèmes. Et donc, qu'est-ce que je suis dans la vallée ? Combler. Combler les trous en venant à Dieu. Puis aller les élévations, les collines qu'il faut abaisser. Je crois que ça parle ça de l'orgueil. L'orgueil qui est en nous tous, l'ego. Et ça prend plein de formes. Toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Nancy n'est pas là, sinon elle ferait à mon égard. Il y a les chemins, il faut rendre droit les sentiers, les chemins tordus qu'il faut redresser. Ça peut être la malhonnêteté. C'est ce que disaient les soldats qui accusaient injustement. Alors ça peut être, vous dites peut-être, oh mais c'est des petits mensonges. Un petit mensonge, c'est un petit mensonge. C'est un mensonge aussi. Qu'il soit gros ou petit, il est malhonnête. Il n'est pas droit devant Dieu. Ça peut être l'impureté. Ça peut être l'impureté à l'âge d'Internet. La pornographie est si facilement disponible. Je frémis, je tremble quand je pense à nos enfants qui, dès le plus jeune âge, peuvent avoir accès à des choses terribles. Je frémis pour eux, je frémis pour moi, qui peut être tenté, sans l'avoir recherché, de juste en cliquant sur cette touche, je peux satisfaire ma chair, mon péché. La sexualité est une chose merveilleuse, c'est un cadeau de Dieu. En dehors du mariage, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose de tordu. Je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Mais je crois que si l'Église était vraiment plus réelle, si nous on se prenait en charge, si on se repentait vraiment, on aurait l'autorité de dire à tous ces gens qui veulent vivre dans l'immoralité en espérant qu'il n'y aura plus de restreintes, plus de retenue aucune, on leur dit la vérité et on leur montre que leur voie n'est pas la bonne voie, pas pour nous enorgueillir, pour nous dire vous vivez mal et nous vivons bien. Nous sommes les bien-pensants, nous sommes les justes, nous irons au paradis, vous irez en enfer. Très important de parler de l'enfer. L'Église a cessé de parler de l'enfer. Les gens font n'importe quoi, y compris les chrétiens. Et puis il y a les aspérités, les chemins raboteux qui doivent être rabotés, qui doivent être nivelés, qui doivent être aplanis. Ça peut être la dureté, la façon dont je traite les gens, la colère, dire du mal des uns des autres. Avec mes enfants, je les critique, je leur dis jamais une parole encourageante, je leur fais du mal. Ça va même des fois jusqu'à la violence physique. Seigneur, nous nous tenons devant toi dans l'humilité. Nous comprenons que ces choses ne sont pas des fruits dignes de la repentance, Seigneur. Je te remercie pour chaque personne qui a l'humilité de se tenir devant toi. Aide-nous, Seigneur, à dire la vérité, à nous dire la vérité entre nous. Aide-nous à préparer le chemin pour toi en redressant toutes ces choses, en comblant ces vallées, en abaissant ces élévations, en rabotant le terrain plein d'aspérité, pour que nous soyons des canaux entre les hommes et toi, Seigneur. Merci pour cette opportunité aujourd'hui de nous repentir devant toi. Dans le nom de Jésus, nous prions.